Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Le printemps est là, oui, la verdure a envahi nos campagnes, de la vraie verdure. Là, c'est bien bien vert, un signe d'eau, signe de vie, ma foi. L'occasion de nous parler de cette ressource, l'eau, qui a eu sa journée mondiale vendredi dernier, 22 mars. Allez, elle était facile, jette-toi à l'eau Ludo.
Oui, elle est facile, mais il faut la faire quand même.
Indispensable en fait.
Et oui, parce que parler d'eau chez nous, département des Deux-Sèvres, la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise, a, je pense, du sens. Cela en a aussi avec les méga-bassines de la méga-discorde. Et puis l'eau, c'est aussi et surtout la base de la vie, base de l'agriculture, qu'elle soit stockée ou non, base aussi de toute économie.
On sort donc, je le disais, d'un automne-hiver très arrosé, les nappes, les rivières sont pleines. On aurait tendance à penser que nous n'avons peut-être plus besoin de faire attention.
Ah oui, mais il faut toujours faire attention, surtout avec l'eau. Sur la Terre, un habitant sur quatre n'a pas accès à l'eau potable. En France, nous consommons en moyenne 150 litres d'eau par habitant et par jour. Donc avec des disparités hein, entre les plus riches et les plus pauvres, qui n'en consomment par exemple que 90 litres, et entre le sud de la France et le nord. Tout n'est pas bien fait, car ceux qui en ont le plus besoin en ont le moins. Et enfin, n'oublions pas qu'en Deux-Sèvres, 13,3% de l'eau potable mise en circulation disparaît dans les fuites de réseau. Et c'est 19% au niveau national.
Je te souligne que du côté du SVL, très peu de pertes d'eau, grâce à des investissements qui ont maintenu les tuyaux, j'allais dire,
tout
en état.
Tout le réseau est en état, force ouais. d'investissement petit à petit.
Exact.
Exactement. On est censé renouveler plus d'1% de notre réseau tous les ans.
Et on va saluer, tiens, la présidente du SVL, Dominique Régnier.
Bonjour à elle.
Ainsi que toute l'équipe dirigée par Sébastien Reynaud.
Donc la ressource en eau renouvelable, c'est-à-dire ce qui tombe moins ce qui s'évapore, donc ce qui reste disponible pour nos activités, l'irrigation, boire, nos industries aussi, a baissé d'environ 15% en 20 ans. La sécheresse de 2005, si vous en souvenez, c'était deux communes qui n'avaient plus accès à l'eau potable en France. En 2022, c'était plus de 1300. Donc il faut bien voir que malheureusement, non seulement la ressource en eau diminue, mais le climat est en train de devenir plus variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des années où il pleut beaucoup moins et des années où il pleut presque normalement. 15% c'est une moyenne et 15% de moins en moyenne, ça peut vouloir dire qu'une année donnée, on aura moins 25, moins 30% d'eau.
Pour faire attention à cette eau, un vaste plan concernant l'eau a été lancé, un plan qui prévoit que l'on s'organise pour prélever 10% d'eau en moins à l'horizon 2030. Dans 6 ans, c'est-à-dire presque demain en fait.
Oui, ça arrive très très vite. Et 10% à la maison, j'ose penser que pour un Français moyen, c'est assez rapidement réalisable et assez facilement. Ce sera beaucoup moins pour l'agriculture, qui est le premier motif de prélèvement de l'eau dans l'environnement. Les centrales électriques, auxquelles vous pensez peut-être prélèvent encore plus, mais c'est de l'eau qu'elle retourne à l'environnement. Un peu plus chaude aussi, par contre, c'est vrai. Donc ça ne diminue pas le débit des fleuves, hein, très clairement, c'est les centrales électriques, ou très marginalement. Alors que l'agriculture, elle, c'est de l'eau qui est utilisée, qui ne retourne donc pas directement à l'environnement. Les méga-bassines ont été, entre autres, justifiées avec cet objectif de baisse de prélèvement de 10%. Mais cette eau ne va pas forcément contribuer à améliorer et à limiter les sécheresses à venir, peut-être même au contraire.
Explique-toi, Ludo.
Alors oui, l'eau prélevée dans les nappes est mise dans une bassine. C'est totalement différent qu'une eau de surface collectée et stockée dans un étang, générant un écosystème, dans un étang, une retenue collinaire. Et ça, participant donc à la gestion de l'eau dans son cycle superficiel. L'eau remise en surface après pompage génère plus d'évapotranspiration. Elle augmente le volume d'eau dans l'atmosphère, qui lui contribue en plus à augmenter les températures. La vapeur d'eau garde la chaleur. La hausse des températures est l'un des principaux facteurs de modification du cycle de l'eau, avec le phénomène naturel et historique El Niño dans le Pacifique. Couplé au réchauffement climatique, les températures ne cessent d'augmenter et le moteur devient donc de plus en plus puissant. Et plus la température augmente, plus le cycle de l'eau superficielle s'accélère, d'autant plus que nous pompons donc de l'eau du sous-sol pour la mettre à la surface, mais aussi en asséchant notre surface avec l'imperméabilisation des sols par exemple. Et la diminution du monde végétal, il faut bien le dire aussi. Un chiffre pour vous rendre compte des besoins de notre société. Pendant que la population a été multipliée par 4 au niveau mondial, nous avons multiplié par 7 l'extraction d'eau.
L'eau ne disparaît pas, Ludo, elle est forcément, logiquement, quelque part.
Oui, ça c'est vrai. Les masses d'eau restent à peu près constantes sur Terre. La quantité d'eau reste la même, mais en fait elle change de réservoir. Elle disparaît des nappes par notre activité de pompage, entre autres. Elle disparaît des fleuves, notamment parce que les nappes sont connectées au fleuve, mais aussi avec l'imperméabilisation des sols et les travaux hydrauliques qui ont été réalisés. L'eau va toujours plus vite vers la mer et elle disparaît de la surface aussi parce que le monde végétal diminue. Les plantes attirent l'eau, la retiennent, la condensent. Une partie de cette eau des nappes va se retrouver donc dans l'atmosphère sous forme de fortes pluies. Et entre les épisodes pluvieux où l'eau n'aura pas pu s'infiltrer parce que tombée trop violemment sur un sol imperméable, nous aurons un épisode de sécheresse plus intense avec une possible canicule. Et une autre partie de cette eau des nappes, en fait, contribue à augmenter le niveau des océans. Et ce n'est donc plus de l'eau douce.
L'eau, c'est la vie, c'est la biodiversité, pas l'aggravation, normalement, du changement climatique.
Exactement, mais en modifiant le cycle de l'eau,
ça le devient.
L'irrigation a contribué depuis des millénaires, en fait, à façonner l'agriculture. Mais pendant 5000 ans, cela n'a pas impacté l'ordre naturel des choses. Par exemple, puisqu'à travers les rivières, les mares, la végétation, la circulation de l'eau superficielle respectait un équilibre, avec certes moins de rendement. En fait, c'est en industrialisant notre irrigation, en pompant, en limitant le végétal et en imperméabilisant que nous avons impacté notre climat.
L'eau et le climat possèdent ainsi de fortes interactions. Le changement climatique perturbe le cycle de l'eau, de la même manière que les dysfonctionnements du cycle de l'eau affectent le climat.
Exactement. Mais l'eau a un autre lien, je dirais, avec notre changement climatique, auquel on ne pense peut-être pas tout de suite, mais avec quelque chose que vous entendez souvent, c'est le stockage du carbone. Stocker du carbone dans la nature revient à parler de photosynthèse. La photosynthèse, pour faire court, c'est fabriquer du végétal, de la matière organique, en captant du carbone. Donc ce carbone est devenu organique, après la photosynthèse, sous forme de sucre par exemple. Il retournera au sol pour devenir un humus stable et nourrissant pour la plante. Cet humus capable de stocker de l'eau. Mais pour capter ce carbone, il faut que la plante existe et qu'elle fonctionne. Et elle fonctionne avec de l'eau. S'intéresser à l'eau, c'est donc parler de biodiversité, mais c'est aussi parler cycle du carbone.
Un exemple.
Juste pour faire simple, sans rentrer dans la chimie, pour stocker une molécule de carbone organique, une molécule de sucre, celle-ci s'ajoute aussi, fabriquée par la photosynthèse, et être donc un puits de carbone, il faut 6 molécules d'eau, 6 H2O. Il faut donc du végétal sur nos sols. Pas de plantes, pas d'eau et pas de stockage de carbone. Du végétal en surface, capable d'agglomérer la vapeur d'eau pour refaire des pluies ensuite. Du végétal capable de faire vivre les micro-organismes qui favoriseront la porosité du sol, qui pourra ensuite donc laisser s'infiltrer et stocker de l'eau. Donc l'eau est un sujet à voir de manière globale et à l'échelle systémique, à l'échelle d'un système, histoire de ne pas voir, Jacqueline, notre fièvre augmenter.
Parce que chacun peut apporter sa petite pierre, n'est-ce pas,
Ludo?
Chacun à son échelle peut en être le moteur. Merci Ludo.
Voilà, bonne journée. Ciao.